Le temps de lire. Chaque mois, retrouvez les coups de cœur littéraires d'Anne-Françoise. Le temps de lire. Présenté par Anne-Françoise Rocchitelli. Le temps de lire avec Anne-Françoise Rocchitelli. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Le temps de lire. Anne-Françoise, tu nous présenteras désormais chaque mois une œuvre littéraire. Voilà, tu vas nous présenter l'œuvre et prendre le temps de nous lire des extraits, d'où le titre de cette émission. Cette semaine, tu mets à l'honneur Clara Dupont-Monod pour cette première émission et ce sera le livre S'adapter.
Voilà, en fait, j'avais un petit peu le regret du confinement pendant lequel, comme il n'y avait pas de programme de cinéma, je parlais de livres de temps en temps sur REC et je partageais mes coups de cœur. Et ça commençait sérieusement à me manquer. Donc voilà pourquoi j'ai proposé cette chronique, absolument sans prétention, hein, œuvre littéraire, on peut dire livre, tout simplement. Et effectivement, le but tout simple de ce que je vais faire, c'est vraiment de donner envie aux auditeurs de lire et de prendre le temps de lire, parce que les gens disent toujours qu'ils n'ont pas le temps de lire et je trouve ça vraiment dommage dans la vie. On n'a pas le temps de faire grand-chose, mais enfin...
D'où peut-être le regret du confinement, où on prenait
voilà,
un peu plus le temps.
Voilà, on avait beaucoup le temps de lire, par exemple, mais aussi beaucoup le temps de faire la cuisine, beaucoup le temps de faire pas mal de choses. Mais voilà, il faut garder le temps de lire et d'écouter la radio. C'est deux choses qu'il faut absolument faire dans la vie.
Et on peut lier le meilleur des deux mondes, notamment à travers cette émission.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai découvert ce livre, hein, parce que c'est le premier livre que je lis de Clara Dupont-Monod. Je ne connais pas du tout son travail d'écrivain. Je l'ai découvert à la radio, sur France Inter, dans l'émission Boomerang. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire ça beaucoup plus humblement, n'est-ce pas?
Ah, pas de sous-modestie, Anne-Françoise. On sait que tu as l'expérience, car comme tu l'as dit, tu nous as présenté des livres.
C'est vrai.
Durant un bon moment, puisque le confinement a duré assez longtemps. J'ai pas la durée en tête.
C'était surtout pendant le deuxième confinement, en fait, qu'on s'est mis à faire ça très régulièrement. Donc voilà, et je vais commencer tout de suite par lire un petit passage pour se mettre un petit peu en jambes et
allons-y, c'est le but de cette émission. Allons-y.
Voilà. Au bout de 3 mois, on s'aperçut que l'enfant ne babillait pas. Il demeurait silencieux la plupart du temps, sauf pour pleurer. Parfois, un sourire se dessinait, un froncement de sourcils, un soupir après le biberon, un sursaut lorsqu'une porte claquait. C'était tout. Pleurs, sourire, froncement, soupir, sursaut. Rien d'autre. Il ne gigotait pas. Il restait calme. Inerte, pensaient ses parents sans le dire. Il ne manifestait aucun intérêt pour les visages, les mobiles suspendus, les hochets. Surtout, ses yeux sombres ne se posaient sur rien. Il semblait flotter, puis il s'échappait sur le côté. De là, les prunelles virevoltaient, suivant la danse d'un insecte invisible, avant de se fixer à nouveau dans le vague. L'enfant ne voyait pas le pont, les deux maisons hautes ni la cour, séparées de la route par un très vieux mur de pierre rousse, érigé là depuis toujours, 1000 fois démoli par les orages ou les convois, 1000 fois reconstruit. Il ne regardait pas la montagne à la peau râpée, le dos planté d'un nombre infini d'arbres fendus d'un torrent. Les yeux de l'enfant caressaient les paysages et les gens. Il ne s'attardait pas. C'est donc l'histoire, c'est une histoire très simple, hein, ce livre. C'est l'histoire d'une famille qui a déjà 2 enfants, enfin un couple qui a déjà 2 enfants, et dont le 3e enfant naît inadapté, comme on disait à une certaine époque. Hein, on parlait de l'enfance inadaptée, je ne sais pas si ça se dit toujours ce terme. Maintenant, on parle beaucoup plus de personnes en situation de handicap, et etc. On prend un peu plus de
pincettes.
Voilà. Donc c'est un enfant, en fait, qui, au début, il ne s'en rend pas compte. Il naît, il est à peu près comme tous les autres, sauf qu'il est un petit peu plus calme. Et puis au fil des mois, ils vont s'apercevoir que, ben voilà, la première chose dont la maman va se rendre compte, c'est qu'il ne voit pas. On n'a pas l'impression qu'il voit, puis elle va vérifier en lui passant des choses devant les yeux. Mais voilà, cet enfant-là, il ne réagit pas, il ne progresse pas, comme on dit. Hein. Les enfants, on attend qu'au bout d'un moment, il s'assoit, il bouge, il sourit, il se manifeste un petit peu. Et celui-là, finalement, ben, il reste là. Inerte, effectivement, ils n'osent pas trop le dire. Et on imagine très bien, en fait, le ressenti de ces parents qui ont un enfant et qui commencent à se rendre compte qu'il n'est pas tout à fait comme il devrait être, que les choses ne se passent pas tout à fait comme elles devraient se passer. Et L'angoisse, en fait, qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir et sans oser se l'avouer, parce que tant qu'on dit rien, ça n'existe pas vraiment, en fait. Hein. Mais malgré tout, à un moment, on commence à se dire et à penser, à peut-être dire à l'autre que cet enfant-là, il n'est pas tout à fait comme, comme les autres. Donc effectivement, à un moment, ils s'aperçoivent donc qu'il est aveugle et ils l'emmènent en consultation, voir les spécialistes, etc. Non seulement il est aveugle, eh bien on finit par leur dire que, qu'il est vraiment handicapé et que à aucun moment, c'est un livre qui est absolument pas technique ni à aucun moment on ne prononce de mots justement de termes médicaux ou de voilà, on sait pas ce qu'il a cet enfant hein. Il, en gros pendant toute l'histoire il va rester comme ça immobile, il parle pas, il entend pas, il voit pas, enfin il entend pas, si justement il entend et on le verra un petit peu tout à l'heure, c'est à peu près la seule chose qu'il fait, enfin il respire et il entend et c'est quand même la vie réduite à sa moindre expression. Et ce qui est vraiment très chouette dans ce livre, c'est que finalement, comment dire, d'habitude, devant ce genre de situation, on emploie des termes, voilà, les gens qui sont comme des légumes, etc. C'est des termes assez quand même violents, enfin très violents, et en plus on a vraiment l'impression, enfin, comment dire, on se dit que si ça nous arrivait une chose pareille, ça serait la fin du monde, quoi. Enfin, la vie serait terminée, on ne saurait plus quoi faire, c'est pas possible, c'est invivable, c'est inacceptable, on se révolterait, etc. Et en fait, dans cette famille, ils ne se révoltent pas, justement, ils s'adaptent.
D'où le titre du livre, on s'adapte à l'enfant.
Voilà, exactement. Et toute la famille va s'adapter, c'est ça qui est en plus vraiment, vraiment bien, parce que c'est difficile pour les parents, mais finalement, les deux enfants, il y a une fille et un garçon, chacun à leur façon très différentes, ils vont prendre leur part en fait de la difficulté et de la tâche, parce que c'est une tâche finalement qui est tombée sur cette famille. Quand on a un enfant comme ça, il faut s'en occuper d'une façon particulière chacun prend sa part de responsabilité et finalement fait en sorte que les choses tiennent et que les parents restent ensemble et que la famille continue à vivre. Et finalement, c'est juste un enfant pas comme les autres. Et c'est juste une vie pas comme les autres, parce qu'on peut supposer que sans cet enfant, ils auraient fait des tas d'autres choses, ils seraient partis en vacances, en voyage, enfin, voilà, ils auraient, les enfants auraient invité des amis chez eux, des choses comme ça, toutes simples, hein, mais qu'ils peuvent pas faire parce que cet enfant-là, ils l'ont et toute la journée, et on peut pas le laisser tout seul, et voilà. Mais en fait, ils s'adaptent, et c'est vraiment, le titre de ce livre est vraiment, résume tout le... Toute l'histoire et résume le caractère de cette famille. Ça se passe dans le Massif Central, en Auvergne. Et c'est vrai que on y est. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout si Clara Dupont-Monod est auvergnate, mais peut-être. Mais en tout cas, on sent vraiment alors ça se passe dans le Massif Central, je ne sais pas où exactement, il n'y a aucun moyen de le savoir, mais dans un village quand même relativement isolé, dans une maison qui est plutôt en montagne, enfin on a vraiment l'impression qu'on est entouré de pierres, de granit, de sapins, que ça monte, que les routes sont en virage, etc. Enfin, que c'est un endroit un peu perdu, un peu difficile d'accès. Et puis, on imagine vraiment ce côté auvergnat, à la fois dans le paysage et dans le caractère des gens, c'est-à-dire quelque chose de très austère. Enfin, c'est la nature, c'est la pierre. Il n'y a pas de... Comment dire ? On accepte les choses, effectivement. Enfin, c'est le côté un peu paysan, même si ces gens-là ne sont pas du tout des paysans.
On accepte la vie telle qu'elle se présente. Finalement.
C'est ça. Les gens, autrefois, qui vivaient comme ça dans les campagnes, je veux dire, ils prenaient les choses comme elles se présentaient. Et dans tous les villages, il y avait des gens qui n'étaient pas comme les autres, des enfants qui n'étaient pas comme les autres. Et bon, ça ne se passait pas toujours si bien que ça. Mais voilà, de toute façon, on ne se révoltait pas forcément, quoi. Et là, c'est comme ça. De toute façon, cette famille, elle va résister. Et donc, chacun va prendre son rôle. Donc, je vais lire un deuxième passage parce que c'est pareil, Clara Dupont-Monod, il y a un côté très sobre dans son écriture. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas les noms, par exemple, des deux enfants. Elle parle juste de l'aîné et de la cadette. Et l'aîné, lui, son rôle, ça va être de s'occuper de cet enfant. Il va mettre un peu de temps avant de... avant de vraiment sentir que c'est ça son rôle et avant de sentir qu'il peut pas vivre sans cet enfant. En fait, il essaye de s'échapper en grandissant, en devenant adolescent, mais en fait, ça marche pas finalement. Cet enfant, comme il est, c'est quelque chose dont il a besoin finalement.
Oui, c'est sa famille, c'est aussi
C'est son frère. C'est son frère. Au beau jour, lorsque la montagne semble s'ébrouiller à la faveur des premiers rayons, l'aîné se dirige vers l'arrière de la maison. Le terrain monte, à rebours de la rivière qui multiplie les cascades. Il avance avec précaution, les bras chargés de ce grand enfant dont la tête dodeline. Sur sa hanche, rebondit un sac avec une bouteille d'eau, un livre et un appareil photo. Il repère l'endroit où le terrain devient plat. Les pierres forment une petite plage. Il dépose le corps avec délicatesse, la main contre sa nuque. Il cale sa taille, déplace un peu son menton pour qu'il reste à l'ombre d'un immense sapin. L'enfant soupire d'aise. L'aîné frotte les aiguilles qui libèrent un parfum de citronnelle et les lui passe sous le nez. Ces sapins ne sont pas d'ici, c'est sa grand-mère qui les a plantés il y a longtemps. Il faut croire qu'ils ont aimé cette montagne, car ils ont pris et poussé, même si leur majesté est devenue encombrante. On ne compte plus les branches tombées sur les poteaux électriques et la terre privée de lumière par leur sommet. L'aîné voit toujours ses sapins comme des anomalies, et sans doute n'est-ce pas un hasard s'il couche son frère dessous. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, cet enfant, il ne fait pas grand-chose, mais malgré tout, il entend et il sent. Donc, et ça, son frère, son grand frère, qui est quand même largement plus grand que lui, puisqu'il peut le porter et l'emmener à droite à gauche, et puis il se laisse emmener à droite à gauche de toute façon. Et il a compris ça au bout d'un moment. Il s'est rendu compte que malgré tout, il manifestait un petit quelque chose, un petit plaisir quand il entendait certains sons. Enfin, il réagissait. Et donc, voilà, il l'emmène dans la nature au bord de la rivière pour entendre le bruit de la rivière, par exemple, pour sentir l'odeur des sapins. Il lui passe des bourgeons ou des choses un peu sous le nez pour qu'ils sentent les odeurs. Et dans la famille, justement, à un moment, ils racontent que finalement, à partir du moment où ils se sont rendus compte de ça, et ben, ils ouvrent les fenêtres pour qu'on entende les oiseaux, ils mettent de la musique, ils parlent un peu plus fort. Enfin, ils font, voilà, ils mettent de la vie dans la maison, puisque les deux seuls sens, finalement, dont dispose cet enfant, c'est... l'audition et l'odorat, et donc ils font en sorte que, malgré tout, aussi réduite que soit sa vie, eh ben, elle existe quand même, il y a quand même quelque chose.
Oui, c'est que finalement l'important, plutôt que de se concentrer sur ce dont l'enfant n'est pas capable de faire, c'est de se concentrer sur ce dont il est capable justement, et de lui faire profiter
De ça, oui,
de cette interaction avec le monde qu'il peut avoir.
C'est exactement ça. En fait, il s'adapte donc, et effectivement ils cherchent, ils écoutent, c'est même pas ils cherchent, mais en fait ils observent, ils entendent, ils vivent avec cet enfant et quelque part ils ressentent presque le peu qu'il peut ressentir, et en fait ils font tout pour que à la fois lui, il ait un minimum de vie, je dirais, mais c'est aussi pour eux parce que finalement...
Oui, c'est ce que j'allais dire voilà. Ensuite, c'est que peut-être eux, ça leur réveille des sens qu'ils avaient oubliés ou auxquels ils ne prêtaient plus attention.
Et puis en plus, je veux dire, dans une situation comme ça, si on fait rien ou si on se révolte ou si la vie devient intenable, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ils ont décidé, on comprend bien que de toute façon, ils ont décidé de vivre avec cet enfant. Bon, même si on va voir un petit peu après qu'ils vont pas pouvoir finalement le garder tout le temps. Mais donc, il faut que la vie devienne supportable et reste la vie pour tout le monde. Ils sont une famille, ils ont décidé de continuer à vivre comme ça. Voilà. C'est vraiment, c'est un changement de paradigme, en fait. Quand on lit ce livre, on se dit, la vie, c'est pas forcément... ce qu'on imagine d'habitude, où on fait tout ce qu'on veut sans se poser de questions, ou disons à peu près. Là, il y a un élément différent, une contrainte, clairement. Mais au lieu de le ressentir... finalement, ils ne le posent jamais comme une contrainte. C'est comme ça, de toute façon. Voilà, c'est ce qu'on a dit au début. Ils acceptent. Donc à partir de là, c'est comme ça. Et on fait en sorte que ça se passe bien. Et chacun prend sa part du travail pour que... ça se passe bien.
Oui, c'est que finalement, c'est la réaction à l'attente peut-être déçu des parents, qui est intéressante, où voilà, on rebondit, on continue d'aller vers l'avant et toujours de profiter de la vie.
Oui, et puis on sent que les enfants, alors on va voir que la cadette ne réagit pas tout à fait de la même façon, mais malgré tout, à sa façon, à elle, elle va aussi aider ses parents. Parce que, ils voient bien, je pense, les deux gamins, que leurs parents, eux, ils ont accepté cette situation, que c'est dur pour eux, hein. De temps en temps, on les voit, ils sont assis sur le pont et ils discutent, et ils restent là aussi. À aucun moment, ils parlent de se séparer ou quoi que ce soit de ce genre. Parce qu'ils ont accepté ça. Enfin, ils ont fait cet enfant ensemble, ils l'ont eu ensemble, ils l'ont accepté ensemble. Et à partir de là, ils restent ensemble et ils assument. Hein. C'est vraiment ça. Et alors, les deux enfants réagissent de façon différente, mais je pense qu'ils se disent qu'il faut, aider les parents, en fait, pour que la famille tienne debout. Je pense que c'est ça un peu qui se passe dans la tête des enfants. Et l'aîné, donc, lui, il va s'occuper de l'enfant handicapé pour soulager ses parents, finalement, mais aussi parce qu'au bout d'un moment, il l'aime, hein, y a quelque chose qui se développe, même si c'est un lien qui est extrêmement ténu par rapport à tous les types de liens qu'on peut avoir avec quelqu'un dans la vie.
Un lien ténu, mais finalement spécial et unique.
Voilà, c'est ça, il n'y a que lui qui a cette relation-là avec son frère et il la gardera tant que son frère sera là. Et alors sa sœur, la cadette, elle, c'est le contraire, c'est-à-dire que elle n'accepte pas, c'est la seule de la famille qui n'accepte pas, elle veut pas, elle peut pas, enfin d'ailleurs c'est la réaction, je dirais, qu'on imagine de presque tout le monde, hein, en tout cas de prime abord, elle peut pas accepter, enfin pour elle a pas de frère, quoi, quasiment, hein. Elle invite pas d'amis à la maison, elle ne parle pas de ce frère, enfin quand elle parle de sa famille, elle dit qu'elle a un frère, mais pas d'eux, elle n'en parle jamais. Et elle, par contre, pour le coup, elle est complètement révoltée, mais finalement, elle va quand même faire ce qu'elle peut, elle, pour aider ses parents. Alors,
je vois que le livre est saisi.
Oui, oui.
Les pages se tournent.
Alors par contre, j'ai plus...
L'extrait arrive.
J'ai plus le passage où la cadette, justement... Parce qu'en fait, le principe du livre, c'est qu'elle raconte d'abord... c'est divisé, justement, entre l'aînée, la cadette, puis après, il y a une autre partie dont je ne parlerai pas pour laisser un peu quand même la surprise. Mais donc, c'est tout ce que fait l'aînée et ensuite tout ce que fait la cadette. Finalement, elle sépare le livre en deux parties différentes. Donc voilà.
Deux points de vue différents.
Alors, les mois passants, la cadette régale enfant de sa vie, passa à l'ignorance complète. Elle se détourna du visage froissé de ses parents lorsqu'ils rentraient d'une journée administrative. Elle fit l'aveugle. Elle ne leur proposa aucun soutien, ne manifesta pas d'émotion quand les parents annoncèrent que l'enfant partirait dans une maison spécialisée, sur une prairie à des centaines de kilomètres, tenue par des bonnes sœurs qui s'occuperaient de lui. Elle devina le cœur tisonné de son frère aîné, assis à côté d'elle. Elle préféra se pencher sur son assiette pour séparer méthodiquement les tomates de sa salade. Elle demanda si elle pouvait téléphoner à sa grand-mère le soir même, car sa copine Noémie soutenait que François Mitterrand était plus beau que Kevin Costner, il fallait absolument qu'elles en discutent. L'enfant partit vers sa prairie, elle respira. Avec lui disparaissaient les sentiments encombrants de dégoût, de colère et de culpabilité. Il emportait le versant noir de son âme. Elle n'aurait plus mal. Elle osa même espérer que son frère aîné revienne vers elle, même si, dans un premier temps, il s'évapora. Voilà, donc j'ai dit que la famille ne se révoltait pas, mais si, il y en a quand même une qui se révolte. Mais c'est vrai que quand on lit le livre au début, comme pendant tout un moment, elle ne parle que de l'aîné, finalement, on n'imagine pas que la cadette, elle, va réagir d'une manière complètement différente. Mais malgré tout, par contre, elle va s'occuper de la famille, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper des affaires de la famille, et d'ailleurs de plus en plus en grandissant, et du coup, elle va soulager ses parents de cette façon-là, sans s'occuper...
Oui, donc elle devient, elle aussi, quand même... un élément de l'engrenage familial qui fait que tout fonctionne.
Oui, c'est ça. En fait, la famille reste complètement liée. Comment dire ? Il y a une vision de la famille dans ce livre qui est d'ailleurs très liée au paysage et à l'environnement. Donc la montagne, le granit, les pierres qui ne bougent pas, hein, qui ne changent pas. On est une famille. Donc quoi qu'il arrive, finalement, on reste une famille, on reste ensemble, on continue, on prend les choses à bras le corps et que ça soit par la révolte ou par, ou par l'amour finalement, mais la révolte, c'est une certaine forme de, d'amour de la famille, même si ça paraît un peu indirect et un petit peu compliqué. Mais finalement, à sa manière, elle contribue aussi à ce que la famille reste soudée. On verra aussi qu'il y a la grand-mère qui intervient, qui va venir d'ailleurs, enfin qui vient en vacances et puis après qui va venir habiter, parce qu'ils ont plusieurs maisons, enfin c'est une ancienne ferme, pour les aider, pour les soulager. Et la grand-mère va beaucoup aider finalement sa petite-fille à... Parce que c'est vrai, on se dit quand même, malgré tout, c'est un poids d'avoir... Enfin, on peut comprendre hein, que ça soit un poids pour une gamine d'avoir un frère comme ça. Et puis, ce que ça induit sur la vie familiale et tout ce à quoi... Ils ne parlent jamais de tout ce à quoi ils doivent renoncer, en fait. C'est-à-dire, justement, les vacances, les voyages, les fêtes, les choses comme ça. Hein. Mais il est évident que ça existe, quoi. Et la grand-mère va vraiment l'aider va compenser ça finalement, parce qu'elles vont passer beaucoup de temps ensemble. Et puis en fait, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on s'aperçoit que après, finalement, c'est un livre qui n'est pas très long, hein, il y a quoi, même pas 200 pages, mais on arrive quand même plus loin que l'enfance. Et on va s'apercevoir que par exemple, cette gamine qui a finalement... subit quelque chose d'assez lourd pendant son enfance, elle va parfaitement s'en sortir finalement et vivre, enfin réussir sa vie entre guillemets après, même si on ne peut pas dire... À aucun moment on a l'impression qu'ils ont raté leur vie d'ailleurs, aucun d'eux. Hein. Mais je veux dire, on pourrait finalement penser quand même au traumatisme quand on lit cette histoire-là pour justement des enfants qui ont vécu ça. Et en fait, non, finalement, on dit que c'est pas forcément... bon, ils vont chacun continuer leur vie d'une façon différente, mais parce qu'ils sont différents, l'aîné est plus renfermé, la cadette est plus expansive. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu cet enfant, ça aurait rien changé, parce que finalement, voilà, ils étaient comme ça. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ont réagi... chacun d'une manière différente.
Oui, c'est aussi un témoignage de résilience, finalement, de la part de,
oui, exactement.
De cette famille.
Exactement. Adaptation, résilience, finalement, ça l'ensemble. Hein. Et alors, on va voir que cet enfant, ils vont quand même pas... à un moment, ça va devenir quand même un petit peu compliqué hein, de le garder à la maison tout le temps. Mmh. Et donc, ils vont devoir se résoudre à le confier, en tout cas, une partie du temps à quelqu'un d'autre. Ils entendirent parler d'une maison. Une maison isolée, à des centaines de kilomètres d'eux, en forme de L, posée sur une prairie, remplie d'enfants comme le leur, choyée par des bonnes sœurs. Où vivait-elle? Rentrait-elle le soir? Était-elle originaire de la région? Savait-elle que l'enfant était frileux, mais que la laine le grattait? Qu'il aimait la purée de carottes et caresser l'herbe? Qu'un claquement de porte le faisait sursauter? Et pourrait-elle faire face à une crise de tremblement? Une bouchée avalée de travers ou un chalazion? Cette inflammation des paupières que l'enfant développait de plus en plus souvent, l'aîné n'obtint jamais de réponse. Il détesta ce paysage plat et sans pierre, ce climat doux. Il jugea absurde les murs ceinturant la maison et le jardin, comme si l'enfant pouvait s'enfuir à toutes jambes, pensa-t-il. Passé un portail bleu, la voiture roula sur du gravier qui crissait trop fort. La maison était basse, en toit de tuiles, aux façades blanches, et l'espace d'une seconde, la nostalgie des murs couleur sable de son pays, une teinte si particulière du schiste mêlé à la chaux, lui serra le cœur. Il se vit tourner les talons, saisir l'enfant depuis son fauteuil de voiture et courir dans la plaine, la main sur sa nuque. De fait, plongé dans cette pensée, il ne répondit pas au salut des dames en cornette blanche. Donc voilà, à un moment, la famille est obligée de confier l'enfant donc, à des bonnes sœurs.
Et on se rend compte à quel point le frère pense justement... l'aîné pense justement à son frère et à tout ce qui change dans son environnement, tous ses repères peut-être qui sont perdus, on parle de...
Oui, c'est ça. En fait, les deux enfants vont... Alors, la fille, elle va quelque part être soulagée et puis pouvoir se remettre un petit peu à vivre normalement. Mais lui, en fait, il va être marqué vraiment à vie par cette enfance auprès d'un frère pas comme les autres. Il va s'inquiéter de lui. Enfin, voilà, hein. Et puis, de toute façon, même les parents, enfin, ce qui est surprenant, mais finalement pas tant que ça, hein, c'est que Bon, à la fois, ils sont soulagés parce que c'est lourd, mais en même temps, il leur manque quand même. Aussi comment dire, inexistant qu'il pouvait être, eh ben, il leur manque quand même parce que c'était quand même un membre
oui, parce qu'ils
de
avaient
la famille.
Finalement réussi à établir une sorte de communication avec lui par justement ses réactions. Et c'est un membre de la... En fait, un membre de la famille, c'est quelqu'un avec qui on établit une communication, finalement, et de proche. Et cet élément-là, ils ne le retrouveront pas tant que l'enfant ne reviendra pas.
Oui, voilà. Et puis, on se dit que peut-être que ça crée aussi... Enfin, quand on est un collectif, hein, que ce soit une famille ou un groupe, où il y a un équilibre qui se fait, justement, avec les différentes parties. Et quelque part, cet enfant... Enfin, ils avaient construit un équilibre avec cet enfant-là, même s'il était posé la moitié du temps, comme elle dit, sur les grands coussins dans la cour ou sur le canapé. Mais du coup, quand il s'en va, l'équilibre se détruit un petit peu, quoi. Et il y a une instabilité qui s'installe. Et bon, évidemment que ça va leur permettre de reprendre un peu d'énergie, de souffler, voilà. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui va leur manquer. Et c'est pour ça que c'est vraiment... ce qui est intéressant dans ce livre, finalement, c'est qu'on s'aperçoit que... la vie, c'est pas... comment dire, c'est pas ce qu'on imagine. Et que ça peut être complètement différent, mais finalement...
on n'est pas moins heureux, finalement.
Je ne sais même pas si c'est une question... Enfin, le bonheur, il n'est pas forcément là où on croit. Je ne vais pas dire que c'est facile,
oui,
que... Voilà, hein, on ne les envie pas forcément. Mais dans la vie, il peut arriver des choses complètement inattendues, imprévues. Et finalement, ce n'est pas forcément une catastrophe. C'en est une au premier abord, mais encore là, on voit que c'est arrivé progressivement, ils s'en sont rendus compte progressivement, et ils n'ont pas vraiment réagi comme ça. C'est pas forcément un traumatisme, c'est une différence à laquelle il faut s'adapter. Et à partir du moment où on choisit de s'adapter, finalement, on continue à vivre, même si c'est très différent de la vie, je dirais... de la majorité de la population et des familles.
Il y a une question, Anne-Françoise, que j'aime bien te poser, que j'aimais bien te poser lorsque l'on faisait les chroniques littéraires, c'est la part de réalité que l'on peut retrouver dans le livre. Alors, j'imagine bien, en t'ayant écouté, qu'on est quand même dans une fiction, en tout cas pas sur un cas précis et cité, puisque on ne donne pas de prénom, d'ailleurs on ne donne pas le nom de la maladie non plus qu'il pourrait avoir. Est-ce que c'est un moyen d'universaliser finalement la situation et de parler peut-être à tous les parents qui pourraient avoir un enfant handicapé, quel que soit son handicap et leur nécessité de s'adapter?
Alors déjà, donc, c'est un roman, je ne parle que de romans. Les romans peuvent toujours être... les romans sont forcément inspirés, les écrivains sont des gens comme les autres, et ils s'inspirent forcément, d'ailleurs il y a souvent des discussions sur ce sujet-là, de choses qu'ils connaissent. Donc il y en a qui vont en immersion dans des univers différents des leurs pour justement comprendre comment ça se passe, il y en a qui parlent de leur vie carrément, il y en a... Voilà. Mais malgré tout, ça reste toujours un roman, il y a un décalage par rapport à la réalité, et en fait, le seul but du roman, c'est de... Comment dire? Je dirais que le but premier du roman, comme du cinéma, c'est d'être lu, et c'est le plaisir de la lecture. Je veux dire qu'il n'y a pas d'enseignement forcément à en tirer. Il n'y a pas forcément de message. Mais malgré tout, au-delà de... Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, au-delà des parents, je pense que ça touche vraiment tout le monde, cette histoire-là, parce que justement, ça change vraiment notre regard. Alors, c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment, mais malgré tout, c'est pas un cliché, ça change vraiment notre regard sur la différence, en fait, plutôt que sur le handicap, parce que en fait, ça nous montre qu'une situation qui pourrait paraître absolument inacceptable, franchement, à laquelle on pourrait absolument pas, qu'on pourrait pas accepter, on pourrait pas imaginer une seconde que ça nous arrive, et bien en fait, si... D'abord, ça peut arriver à tout le monde, parce que là, il n'y a aucune raison particulière pour que ce soit arrivé. Hein. Et on comprendra d'ailleurs à la fin du livre qu'effectivement, il n'y a aucune raison particulière. Mais en plus, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, on peut choisir. Là aussi, c'est une question de liberté. Je veux dire, on parle beaucoup de liberté en ce moment. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut choisir, justement, plutôt que de se révolter, plutôt que de se suicider, d'abandonner sa famille. Enfin, il y a plein d'autres options, hein, quand même, de divorcer, de tout ça. On peut choisir d'accepter et de s'adapter. Mmh. Cet enfant-là, il ne s'adaptera pas, puisque de toute façon, il ne va pas guérir, il ne changera pas, il ne grandira pas, il restera comme ça, immobile, juste à entendre le chant des oiseaux. Donc, de toute façon, on peut dire on n'a pas le choix, mais si, on a quand même le choix. Quelque part, on a toujours le choix dans la vie. On a le choix de dans sa tête, de refuser ça, et, comme la cadette, par exemple, un peu. De dire j'en veux pas et je fais comme si ça n'existait pas, ou de se dire c'est mon enfant, c'est mon frère, et donc voilà, je vis avec lui, je prends ce qu'il a à me donner, je lui donne ce que je peux lui donner, et donc il fait partie de notre vie, et c'est comme ça. Et on n'aura pas la vie qu'on avait imaginée, on n'aura pas la vie des voisins et qu'on raconte d'habitude dans les livres, mais on aura quand même une vie, et peut-être que c'est aussi intéressant que d'aller en voyage aux quatre coins du monde ou d'inviter un tas de monde à la maison, ou de faire des tas de sports extrêmes, ou je ne sais quoi. Et je voudrais terminer en disant que le livre, en plus, se termine de façon, je ne voudrais pas dire positive, parce que je n'aime pas tellement ce terme, mais on s'aperçoit que, justement, la vie continue, et donc je ne vais pas dire comment, mais je vais juste lire un petit passage. Il lui parlait souvent au creux de lui. Instinctivement, il employait des mots tendres et simples, berçait, s'exprimait comme avec un bébé, mais, et cela venait tout seul, lui racontait la mort de Richard Cœur de Lion et le code d'honneur des chevaliers. De loin, nul n'aurait pu deviner qu'il parlait à l'enfant. Il lui racontait aussi ses visions, établissait un parallèle entre une couleur et un son, dévoilait ce qu'il sentait. Il lui révélait son univers secret avec la certitude d'être compris. On ne peut partager un savoir hors norme qu'avec un être hors norme, se disait-il. Il aurait donné n'importe quoi pour le toucher. Sa sœur lui avait tant parlé du rebondi poudreux de sa peau, de leur aîné qui restait joue contre joue. Il imaginait le buste translucide, la transparence veinée de bleu des poignets, l'étroitesse des chevilles, le rose de la plante des pieds qui n'avait jamais servi. Parfois, il allait dans sa chambre, désormais aménagée en bureau. Les parents avaient gardé le petit lit de fer aux volutes blanches. Il posait la main sur le matelas, à l'endroit de la tête. Il fermait les yeux. Montait un filet de voix chantant, cristallin. Il entendait un sourire. Lui venaient aussi des odeurs de transpiration dans le cou, de fleurs d'oranger, de légumes bouillis. Il savait qu'à l'instant où il bougerait la main, pour enfin sentir la peau et les cheveux épais, son frère s'évanouirait. Il en avait les larmes aux yeux. Un jour, il demanda où était le pyjama de coton violet. Sa mère, interloquée qu'il connaisse ce détail, répondit que l'aîné l'avait pris avec lui. Voilà, donc je ne donnerai pas de précision sur ce troisième personnage qui apparaît à la fin. Mais voilà, on ne s'y attend pas du tout. Et en fait, on se rend compte que dans cette famille, il y a toujours de la vie et de l'amour, puisque finalement, ça continue. Et il y a quelque chose de vraiment chouette, c'est que quand ça arrive, les parents rencontrent le spécialiste qu'ils avaient rencontré à la naissance de l'enfant handicapé. Et il leur dit, il y a une chose que je ne vous avais pas dite. Je vous avais dit beaucoup de choses, comment ça allait se passer et tout ça. Mais il y a une chose que je ne vous avais pas dit quand votre troisième enfant est né, c'est que dans la plupart des cas, les parents se séparent. Mmh. Et là, c'est pas arrivé. Peut-être... Et non seulement c'est pas arrivé, mais...
Peut-être qu'il ne fallait pas le dire.
Oui, voilà. Certainement qu'il fallait pas le dire. Non, mais c'est évident qu'il fallait pas le dire. Hein. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont assez bêtes pour le dire. Ou pour peut-être en voulant mettre en garde les gens, ou voilà, mais évidemment que ça sert à rien de le dire. Et peut-être qu'il a senti aussi, le médecin, que ce couple était...
Capable de
résister. Plus que de résister. En tout cas, c'est le couple qui résiste. Mmh. Mais de s'adapter à cette vie. Et du coup, le couple a tenu, quoi. La famille a tenu. Et voilà, les enfants auront des petits-enfants.
S'adapter, de Clara Dupont-Monod. Première œuvre que tu nous présentes dans cette nouvelle émission. Le temps de lire. Merci Anne-Françoise.
Merci Amaury.
Et on se retrouve très bientôt pour un deuxième livre.
À bientôt.